France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Lundi, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a prononcé sa dissolution. Quatre décennies de lutte armée contre l'État turc s'achèvent ainsi. Mais comment comprendre cet acte politique? Dans quel contexte s'inscrit-il? Et au-delà de l'appel d'Öcalan à la recomposition post-Assad en Syrie, comment et pourquoi les Kurdes sont-ils au cœur des recompositions régionales, invisibilisées mais jamais dissous? Ils revendiquent aujourd'hui plus qu'un État le droit d'être les sujets de leur propre histoire. Pour en discuter, un invité ce soir. Bonsoir, Hamid Bodrassalm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous faites paraître aux éditions du CERF une histoire des Kurdes et plaisir renouvelé comme chaque mercredi de recevoir Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ils ont investi le centre-ville de Diyarbakir, la plus grande ville kurde de Turquie. Ces femmes et ces hommes sont venus célébrer le message d'Abdullah Öcalan, le chef du parti des travailleurs du Kurdistan, qui a appelé sa propre organisation à rendre les armes.
Organisez votre congrès et prenez la décision de vous intégrer à l'État et à la société. Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre. Je transmets mes salutations à tous ceux qui croient en la coexistence et qui répondent à mon appel. Abdullah Öcalan.
Comment comprendre, Hamid Bodrassalm, que le PKK ait été dissous par l'un de ses fondateurs depuis sa prison, la prison où il est enfermé depuis 1999 ?
En tout cas, pour répondre à cette question, je pense qu'il faudra d'abord se placer dans une temporalité longue. Quand vous regardez la fondation du PKK dans les années 70, on est dans un monde entièrement différent. Un monde entièrement différent, il y a encore des luttes anticoloniales. Il y a un pays qui s'appelle la Rhodésie, qui aujourd'hui s'appelle le Zimbabwe, qui mène sa guérilla. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique. On est au début des guerres civiles en Amérique centrale. Donc le monde de cette période là n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui. En deuxième lieu, le Kurdistan de cette période est un Kurdistan qui est livré à la répression, au mouvement massif de contestation. Le Kurdistan irakien est en révolte. En 1979, parallèlement avec la révolution iranienne, les Kurdes feront leur révolution en Iran. En Turquie, il y a le contexte de la violence. Donc le PKK est le fruit de cette période-là. Et aujourd'hui, on est dans un Kurdistan entièrement différent. À la fois à l'échelle régionale, parce qu'il y a un Kurdistan irakien. Je reviendrai aussi peut-être à l'émergence d'un Kurdistan en Syrie. Mm-hmm. La société kurde en Turquie même a considérablement changé. Il y a 40 ans, la société kurde était rurale à quelque 75-80%. Aujourd'hui, la proportion est totalement inversée. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de classe moyenne au Kurdistan de Turquie. Aujourd'hui, les sociétés se considèrent comme de classe moyenne. Le taux de fertilité est passé de 7-8 à 2 par famille. Donc, toutes ces transformations expliquent effectivement la volonté du PKK de sortir de la lutte armée depuis maintenant un quart de siècle.
Est-ce que ça veut dire que le PKK n'est plus en phase avec cette société nouvelle que vous décrivez, avec société qui a émergé depuis les années 70?
Alors, le PKK est en phase avec cette société et en même temps, le PKK a contribuer à transformer cette société au-delà de ses propres espérances et de ses propres dynamiques. Quand on parle de PKK, on parle à vrai dire de quatre choses très différentes, mais qui sont articulées. Un parti politique qui est illégal, un mouvement de guérilla qui dispose sans doute de quelques 12 000 combattants et combattantes, cela est très très important. Un monde de société civile, à la fois au Kurdistan de Turquie, mais au Moyen-Orient aussi, en Europe, qui est composé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans le domaine culturel, dans le champ éducatif, dans le champ associatif, et des centaines de milliers de personnes qui se revendiquent du PKK sans en faire partie organiquement. Et de l'autre côté, il y a aussi désormais un mouvement légal kurde qui est réprimé, beaucoup de maires kurdes sont destitués, beaucoup de leaders de ce parti sont aujourd'hui en prison, mais malgré cette répression, ce parti obtient quelques 10% des voix. Et donc, du coup, la société a été transformée en partie par le PKK lui-même. Et de l'autre côté, le PKK aujourd'hui a créé effectivement des dynamiques qui le dépassent de très loin.
Question de Julien Bisson.
Oui, Hamid Bodrassalm, est-ce que la dissolution du PKK traduit en réalité une forme
de renoncement au rêve de création d'un État kurde indépendant qui a longtemps été l'objet de la revendication du PKK.
C'était au début. Disons que le PKK y a renoncé depuis maintenant, là aussi, un quart de siècle, passant de l'idée de créer un État kurde, voire un État kurde socialiste unifié comme le tête de pont d'un Moyen-Orient socialiste. Il est passé à l'idée, à la critique même de l'État-nation, selon le leader de PKK Öcalan. Donc l'État-nation serait responsable des guerres mondiales, des deux guerres mondiales, des génocides, des mouvements de répression. Et donc, du coup, de ce projet de l'État-nation, il est passé à un projet qui lui-même définit comme le confédéralisme démocratique, qu'on peut définir comme le projet de la démocratie radicale, qui se traduirait par le dépassement de la logique représentative parlementaire, par la participation au quotidien à toutes les échelles de la société. De plus bas, voilà, de niveau le plus élémentaire qui est le quartier, au niveau le plus élevé qui est une communauté nationale ou un État. Donc le projet d'État-nation a été en quelque sorte abandonné, mais je crois que ce qui est très important de saisir, c'est que on observe à la fois une fragmentation du Kurdistan, qui est une réalité historique, qui s'est aggravée par la division du Kurdistan entre quatre États, d'abord au début du XVIe siècle, après en 1919-1920. Donc ce Kurdistan a produit, ce partage a produit quatre Kurdistans qui ont leur propre tradition, qui ont leur propre histoire. Et de l'autre côté, malgré cette fragmentation, on observe que le Kurdistan s'est unifié dès les années 1920 et 30, sur un plan symbolique. Dès cette période-là, il y a l'imaginaire cartographique du Kurdistan, une historiographie très largement homogénéisée, un panthéon qui est créé, un drapeau qui est imaginé et qui a la couverture de cet ouvrage, un hymne national qui va être adopté en 1946. Donc ces processus de fragmentation et d'unification vont de pair et le PKK se situe en quelque sorte au croisement de ces deux processus. D'un côté, c'est une organisation kurde de Turquie, mais qui a un certain impact, notamment sur le Rojava syrien, sur lequel on reviendra sans doute. Et de l'autre côté, c'est un acteur de référence et de Turquie, mais qui dépasse aussi la Turquie.
Je reviens un instant quand même sur cette solution impressionnante du PKK. Est-ce que Öcalan a pu obtenir de la part des autorités turques, de la part d'Ankara, de la part peut-être d'un troisième acteur, quelque chose en échange de cette annonce-là récente ?
Pour le moment, rien. En tout cas, autant qu'on sache. Pour le moment, rien, parce que quand vous regardez le discours du régime turc, j'utilise même pas le terme d'État, mais plutôt de régime d'Erdogan, vous avez deux ou trois éléments qui apparaissent. Le premier élément, c'est que le PKK représente ou a incarné la terreur. Donc, il faudrait en terminer avec la période de terreur qui a commencé il y a quatre décennies. Donc, c'est une façon de dire que la question kurde n'existe pas, alors que Öcalan le rappelle, la question kurde est quand même une question qui s'étale sur 100 ans. Et si le PKK a émergé, c'est précisément parce qu'il y avait la question kurde. Le PKK n'a pas émergé à partir de rien, mais tout simplement en réponse à une politique de négation, à une politique de répression. Un deuxième élément apparaît dans le discours d'Erdogan mais de son entourage, c'est que la question kurde peut être manipulée par les impérialistes, je le cite entre guillemets, et par les sionistes. N'oublions pas qu'il y a aussi l'une des temporalités qui gère cela, c'est quand même la guerre de Gaza et par la suite la guerre de Liban de 2024. Tout ce processus a commencé quand effectivement Israël a s'est livré à une guerre contre le Hezbollah et la chute de Bachar al-Assad. Tous ces événements-là n'étaient absolument pas prévisibles. Et donc, pour la Turquie, les impérialistes et les sionistes ont toujours essayé de manipuler les groupes ethniques en interne, à commencer par la Macédoine ottomane du début du XXe siècle, par la suite les Arméniennes. Cet argument a été utilisé pour justifier le génocide des Arméniennes et des communautés chrétiennes d'Orient. Et maintenant, ils veulent manipuler les Kurdes, donc essayons de faire de sorte que cette manipulation n'existe pas. Mais voilà, le discours kurde, au contraire, insiste sur l'existence d'une question kurde, aussi bien en Turquie qu'en dehors de la Turquie, dans quatre pays de la région.
Julien Bisson.
Oui, est-ce que justement, après cette dissolution du PKK, il y aura toujours un avenir pour le mouvement kurde en Turquie, ou est-ce que finalement c'est un aveu d'échec ?
Et ce n'est pas un aveu d'échec. Je crois qu'au contraire, c'est un aveu de victoire. Si on prend le mouvement kurde dans sa pluralité, dans sa complexité, la société kurde est devenue, comme je dis, une société extrêmement complexe, avec des composantes multiples, avec une créativité intellectuelle, artistique. Juste pour vous donner une idée, il y a 40 ans, on avait à peine 20 livres en anglais, en français, en allemand sur les Kurdes. Aujourd'hui, parfois, il y a 2 livres par semaine qui sortent en anglais. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quand même une forme de résistance, mais cette forme de résistance ne se réduit plus du tout à la lutte armée. De la même manière, j'ai mentionné, voilà, le parti politique kurde qui s'appelle le DEM en Turquie, ce parti, tous les 5 ans, se soumet à une épreuve de réalité. C'est quoi cette épreuve de réalité? On va gagner les municipalités kurdes. On va occuper la mairie, ne serait-ce qu'un jour. Certes, on va être destitué par la suite, hein, mais nous aurons de la légitimité populaire avec nous, et l'État qui va nous destituer perdra sa propre légitimité. De ce point de vue-là, je crois qu'effectivement la société kurde est sans doute aujourd'hui beaucoup plus capable de formes de résistance au pluriel, capable de produire des langues politiques d'expression et de résistance au pluriel qu'il y a 40 ans, où la lutte armée apparaissait pour certains comme la seule solution.
Qui sont les Kurdes aujourd'hui? Où vivent-ils? En Iran, en Syrie, en Turquie et en Irak? Comment se répartissent-ils dans ces 4 États?
N'oublions pas que les Kurdes sont divisés. Voilà, effectivement, la deuxième division, ça s'entend. Les Kurdes ont vécu sous les régimes dictatoriaux, mais pas la même dictature. Voilà. Dire hein, aujourd'hui en Iran, vive Mustafa Kemal Atatürk, ben vous risquez gros, parce que vous êtes dans une république islamique. Il y a 20 ans, si vous disiez vive Saddam Hussein en Syrie, vous risquiez gros. Donc, effectivement, voilà, vous voyez combien ces régimes dictatoriaux, on était tous d'une nature plus ou moins comparable. Et de l'autre côté, ils ont créé quand même des traditions différentes, les formes d'urbanisation différentes, des cultures politiques différentes. Et les Kurdes sont à la fois dans cette unité de kurdicité à l'échelle régionale, symboliquement parlant, par leur aspiration, et de l'autre côté, effectivement, il y a ces déclinaisons. Et donc, je crois qu'effectivement, cette double identification est très importante, s'identifier à la fois comme kurde et irakienne, et on voit, par exemple, il y a un processus de ré-irakisation, autrement dit, on redevient une partie d'Irak, hein, et si les Kurdes n'étaient pas là, l'Irak, sans doute, aurait sombré à sa première guerre civile entre les chiites et les sunnites en 2004. Et de l'autre côté, plus on se ré-irakise, plus on se ré-kurdistanise. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe exactement en Syrie. Plus on dit on sera à Damas, on deviendra une composante fondamentale de la Syrie de demain, plus on se kurdistanise.
Alors justement, sur la Syrie et les Kurdes, Julien Bisson.
Oui, en Syrie, il y a cette zone plus ou moins autonome, qui s'appelle le Rojava, depuis 2012. Pourquoi est-ce que c'est là, au Rojava, que le projet politique kurde est aujourd'hui le plus visible?
Parce que ce projet est le plus menacé. Le plus menacé, parce que n'oublions pas qu'effectivement, le Rojava a émergé plus ou moins au cœur de la guerre civile syrienne. Le Rojava a émergé parce qu'il y avait l'État islamique qui avait constitué quand même une entité de 300 000 km², avec une politique génocidaire, notamment contre les minorités religieuses, parmi lesquelles les Yézidis. Le Rojava est devenu central parce que la Turquie voulait anéantir cette région. Il y a eu 2 opérations militaires d'une extrême brutalité de la Turquie entre 2017 et 2019, accompagné des nettoyages ethniques. Et n'oublions pas qu'y compris en décembre, après la chute de Bachar al-Assad, la presse de l'AKP expliquait doctement que le 22 décembre, ça sera le début de la fin de Rojava, les milices pro-turques et l'armée interviendront. Donc aujourd'hui, on voit qu'effectivement les marges de manœuvre de la Turquie se rétrécissent en Syrie, parce qu'il y a le facteur américain, parce qu'il y a la présence israélienne qui est tout à fait réelle, parce que le nouveau gouvernement qui n'est pas sorti de sa logique milicienne ni de son islamisme ne veut pas entreprendre une deuxième phase de la guerre civile. Et par l'ensemble de ces biais-là, aujourd'hui, on peut dire effectivement que le cœur du Kurdistan bat dans le Rojava, parce que le Rojava est le plus menacé.
Mais justement, Hamid Bozarslan, comment est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui que ce nouveau pouvoir syrien n'est pas intégré, comme il se devrait sans doute, les Kurdes au processus de transition qu'ils sont en train d'organiser?
Alors, ce nouveau pouvoir a signé un accord avec les Kurdes, le 10 mars. Ce nouveau pouvoir aussi a signé un accord, plusieurs accords avec les Kurdes, comme si les Kurdes étaient un État.
Mais sans les inclure directement.
Sans les inclure directement. Et pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, la pression de la Turquie, je crois qu'elle compte encore. Comment la politique turque va évoluer dans l'avenir? Comme j'ai dit, aujourd'hui, les marges de manœuvre de la Turquie se rétrécissent, mais le projet d'anéantir peut-être à terme le Rojava n'a pas encore été totalement abandonné. On va voir quelles seront les surprises du mois à venir. Et de l'autre côté, n'oublions pas que le nouveau pouvoir est issu d'Al-Qaïda. Le nouveau pouvoir est issu quand même d'une tradition islamiste. Il n'a pas abandonné, il a certes abandonné le projet du djihadiste, ça veut dire créer un califat international, mondial, mais il n'a pas du tout abandonné le projet de devenir un émirat islamique, hein, comme on peut l'observer en Afghanistan. Il est toujours dans une logique ultra-confessionnelle et donc mène une justice confessionnelle à l'égard notamment des Alaouites accusés d'être des supports de régime déchu. Vous avez observé ce qui s'est passé avec les Druzes et finalement ce régime, nouveau pouvoir n'a pas encore, en tout cas de bon cœur, abandonné le nationalisme arabe. Mais tout ceci, effectivement, la situation d'aujourd'hui ne nous permet pas de préjuger de ce qui va se passer demain. On a l'impression que de l'autre côté, il y a quand même aussi des contacts extrêmement réguliers entre les deux parties qui se traduisent avec la signature d'une bonne dizaine de traités ou d'accords.
Julien Bisson.
Est-ce que ça veut dire que les forces armées kurdes, qui sont parmi les mieux entraînées de la région, au Rojava, ne sont pas prêtes de déposer les armes comme le PKK, qu'ils vont continuer à exister de façon autonome là, au sein des forces démocratiques syriennes, ou est-ce qu'elles peuvent être intégrées aux forces armées syriennes de l'État central?
Pour le moment, en tout cas, l'option de la dissolution est écartée. L'option effectivement de la préservation d'une forme de région autonome n'est pas du tout écartée. Au contraire, maintenant, il y a en plus une alliance intra-kurde syrienne qui formule la revendication de fédération. Demain, cela peut ne pas être une fédération, mais une autonomie ou une forme de décentralisation. Et de l'autre côté, effectivement, les Kurdes disposent de 60 000 combattants et combattantes extrêmement bien entraînés. Et donc, ces combattants soit se préserveront en tant que corps autonome, soit pourront intégrer effectivement l'armée syrienne. Les autorités kurdes ne l'ont pas écarté, mais non pas pour se dissoudre et devenir des soldats lambda. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quand même encore pas mal de marge de manœuvre en termes de négociation. Mais je crois que le point principal, c'est ça. Ahmed al-Shara, donc le nouvel homme fort du pays, a expliqué que de s'engager dans une guerre avec les Kurdes, ça signifierait un nouveau bain de sang. N'oublions pas que la Syrie est exsangue. Sur une population de 22 millions de personnes, 500 000 sont morts. 7 millions au moins sont réfugiés à l'extérieur, 6 millions de déplacés. Donc, envisager une nouvelle phase de la guerre, c'est quand même extrêmement coûteux en termes de responsabilité. Donc, il se peut que le nouveau pouvoir soit très, très prudent par rapport à cela. Et je crois que sans une intervention massive de la Turquie, je ne vois pas comment les autorités de Damas pourraient anéantir cette entité.
Une ultime question, justement, sur ces Kurdes de Syrie. Quelle est la position des États-Unis vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'ils sont protecteurs de ces Kurdes? Ou au contraire, il y a une espèce de va-et-vient qui dépend des intérêts même des États-Unis?
Alors, en 2019, il y a eu une sorte de va-et-vient, mais ils se sont ressaisis. Si j'ose dire, c'était tout Trump. Trump, effectivement, avait dit, voilà, effectivement, après tout, on n'a rien à faire en Syrie, et que les Kurdes et les Turcs se débrouillent, puisque de toute façon, ils n'ont jamais voulu que s'entretuer. Mais il y a eu d'autres républicains qui sont intervenus, dont Marco Rubio, qui est aujourd'hui, effectivement, le secrétaire d'État américain, pour limiter les dégâts. Et aujourd'hui, on a l'impression que la politique de la nouvelle administration de Trump, c'est à terme, on se retirera, mais sans trahir les Kurdes. Et à cela, il faudrait aussi ajouter, voilà, le facteur qui n'existait pas il y a 5-6 ans, en 2019, le facteur israélien qui est très massivement présent et qui compte beaucoup et pour les Druzes et pour les Alaouites, paradoxalement, et indirectement aussi pour les Kurdes.
La voix d'un poète kurde, écrivain, professeur de musique, chanteur et interprète de tambour, il s'appelle Shivan Perwer.
L'identité kurde est interdite en Turquie parce qu'il y a une grande politique d'assimilation. C'est très difficile pour un peuple que l'on n'accepte pas son identité. Et j'ai protesté contre cela en 1975 et en 1976. Le gouvernement m'a puni et je me suis enfui. En 1976, je suis arrivé en Europe. Depuis, je ne suis pas retourné en Turquie. Je vis toujours à l'étranger. Je peux voyager dans le monde entier, mais je ne peux pas retourner dans mon pays.
Julien Bisson sur fond de musique.
Vous l'avez rappelé, Hamid Bonarslan, il y a plus de 40 millions de Kurdes répartis sur 4 pays. Qu'est-ce qui va fonder l'identité, l'unité kurde, si ce n'est pas par un État commun ?
Pour le moment de la culture, pour le moment de la revendication, pour le moment de la conscience historique, se dire kurde. Se dire kurde, cela veut dire effectivement se dire sujet, dire que nous avons une histoire, qu'on interprète cette histoire, que cette histoire soit une histoire fausse, c'est une autre chose, qu'elle soit déconstruite par les historiens, par la suite, hein, y compris par moi-même, c'est une autre chose. Mais voilà, effectivement, cette capacité de dire, nous nous lisons. Cette capacité de dire, nous sommes des sujets, non pas objets, ça veut dire nous projetons dans l'avenir. Nous investissons le présent. Nous avons les ressources pour cela, la langue est une ressource, la culture est une ressource, l'imaginaire est une ressource. Nous avons une histoire du XXe siècle qui est extrêmement tragique. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Voilà, quelles sont les ressources aujourd'hui de héros, de la vie? Parce qu'effectivement, le Kurdistan a été pendant une très longue temps, une longue période, soumise au régime de Thanatos, donc ce dieu de la mort. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que, surtout les jeunes générations qui ont 15, 20, 30 ans, qui sont dans la création, dans d'autres aspirations, veulent passer à un régime d'Eros, ça veut dire le régime de vie. Donc, il faudrait sans doute partir de ces éléments-là pour comprendre qu'est-ce qu'unit les Kurdes. Et une fois de plus, je rappelle, dans les années 1920 et 30, alors que les révoltes kurdes sont écrasées, la langue kurde est interdite dans certains endroits, il y a une politique répressive extrême, les Kurdes inventent sur un plan symbolique leur unité. L'unification comme réponse à la géopolitique. L'unification symbolique comme une réponse à la géopolitique a permis aux Kurdes de survivre. Et à partir des années 60, tous ces symboles qui ont été établis dans les années 20 et 30, on était réactivés et sont devenus, ont gagné une force dynamique.
Est-ce que ça veut dire que l'idée d'un État kurde est abandonnée ou est-ce qu'elle est encore envisageable aujourd'hui ?
On ne pourra jamais savoir. Je veux dire, effectivement, quelles seront les attentes, les aspirations des générations futures. Voilà, effectivement, du moment où vous avez un imaginaire cartographique, le potentiel d'un État est toujours là. Voilà, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, au Kurdistan de Turquie, on critique la notion même de l'État. Au Rojava, on refuse la création d'un État kurde. On insiste beaucoup sur une région autonome kurde ou une région fédérée, que demain, les générations de 2050 n'auront pas d'autres aspirations. On ne sait pas non plus quelles seront les conditions politiques et géopolitiques de l'époque. Mais disons que l'imaginaire nécessaire... l'héritage très concret aussi, nécessaire des siècles passés pour pouvoir s'imaginer comme une nation unifiée, sont là. Après, effectivement, de là à franchir le pas, peut-être qu'on n'ira pas très vite en la besogne.
Vous parliez, Hamid Bozarslan, d'une conscience historique. Comment cette conscience se transmet aujourd'hui ? Est-ce que le premier vecteur, c'est la famille, les discours interpersonnels ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transmettre cette conscience-là ?
Alors, pendant très longtemps, c'était la famille. Pendant très longtemps, c'était une sorte de socialisation souterraine. Non pas illégal, mais tout simplement, effectivement, transmettre la mémoire, transmettre les lieux de mémoire. Dans tel lieu, il y a eu tel massacre, celui-ci était telle figure, etc. Et je dirais qu'effectivement, y compris dans les années 50-60, dans une bonne partie du Kurdistan, la transmission se faisait par ce biais-là. Avec la période des révoltes qui commence en 1961. 61, ça fait quand même 65 ans de période de révolte pratiquement incessante. Il y a beaucoup plus la possibilité de visualiser de visibiliser cette conscience, de le publier, de l'écrire. Et depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, vous avez encore d'autres formes. Juste pour vous donner une idée, à la fin des années 80, il n'y a pas encore de cinéma kurde. Aujourd'hui, vous avez des festivals de cinéma kurde dans toutes les grandes villes du monde, à commencer par Paris. Et c'est un festival d'une semaine. Donc vous voyez effectivement comment, à un moment donné, les nouveaux supports, le cinéma, aujourd'hui a plus de 100 ans, mais le nouveau support pour les Kurdes, puisqu'il fallait qu'eux, ils arrivent à créer ce, voilà, les outils techniques, leur permet aujourd'hui effectivement de s'exprimer par le langage cinématographique.
Merci beaucoup Amit Bozarslan pour cette histoire du mouvement kurde et ses explications quant à la fin du PKK. Qu'est-ce que l'on trouve cette semaine, Julien Bisson, dans le 1, à la une et à l'intérieur?
Eh bien, on parle notamment des Kurdes. Où va la Syrie? Un siècle de déchirure 1920-2025, un grand récit de Robert Solé et puis surtout un très long reportage de Christophe Boltanski à Homs au cœur des affrontements entre le nouveau pouvoir et les Alaouites.
Merci à tous les deux d'être venus dans Question du soir.